Emmaüs nous parle sur Radio Larsac. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici, on t'aime. De la solidarité et du don, tout un objectif pour cette association. Ça finit par Aus, je crois. Et ça commence par M. Il y avait cet homme dans les années 50. Il s'appelait Pierre, je crois. L'abbé ? Pierre l'abbé. Puis, il y a eu un appel.
Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu, devant l'horreur des cités d'urgence. Écoutez-moi. En 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un, sous la tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. L'autre, à Courbevoie. Ils regorgent déjà. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots.
Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici, on t'aime.
La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent, devant leurs frères mourant de misère, une seule option doit exister entre hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleurs nous aient rendu cette chose merveilleuse. L'âme commune de la France. Merci. Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abri. Il nous faut pour ce soir, et au plus tard, pour demain, 5000 couvertures, 300 grandes tentes américaines, 200 poêles catalytiques. Déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92 rue La Boétie. Rendez-vous des volontaires et des camions pour le ramassage, ce soir, à 23h, devant la tente de la montagne Sainte-Geneviève. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou sur les quais de Paris. Merci.
Alors, le rêve est né. Le mouvement Emmaüs a grandi un peu partout. On récupère, on remet en état et on revend des matériaux reçus en don. Mes amis, le rêve s'est un peu écroulé et il s'est relevé en 2013. Daniel Mérandon, président d'Emmaüs Millau.
On va commencer par le début. On va commencer par le début parce que c'est une affaire assez longue, assez compliquée. En fait, bon, je vais parler de moi, j'aime pas trop parler de moi, mais enfin, je suis obligé. Moi, personnellement, je suis à Emmaüs France depuis 1992. J'étais au comité national, donc ce qui fait que j'étais un peu au courant de tout ce qui se passait au niveau des comités nationaux, parce que mon bon boulot c'était ça, c'est de courir un peu les comités au niveau national, pour savoir un peu quels étaient ceux où il y avait des problèmes, parce que bon, quand on a comme nous 280 structures, il y a toujours quelque part un problème. Donc ça c'était la première chose, et aussi il faut préciser aussi que moi je m'occupais essentiellement des comités de bénévoles, je ne m'occupais pas des communautés, un peu atelier chantier d'insertion, mais surtout comités de bénévoles, c'était surtout ma spécialité.
Les difficultés d'Emmaüs à Millau. Retour avec Daniel Mérandon, nouveau président de l'association.
Moi, au début, j'ai commencé au comité national, j'étais en Haute-Savoie. Je m'occupais d'Emmaüs Thonon-les-Bains. Et très rapidement, donc Emmaüs Thonon-les-Bains a bien tourné, et le comité national m'a demandé si je voulais venir leur donner un coup de main, travailler avec eux. Et c'était en 92, et je les ai quittés l'année dernière, parce qu'il y a trop de travail à Millau, mais j'aurais jamais pensé y rester 20 ans, ça déjà c'est clair. C'est la première chose. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu pour Millau. Alors, j'étais déjà au courant des problèmes de Millau, puisque depuis 92, des informations un peu négative, nous remontait sur Paris.
Donc c'est un vieux problème.
C'est un très très vieux problème. C'est un très vieux problème. Et donc depuis 92, sachant que j'avais de la famille en Aveyron, c'était sympa. Paris me disait toutes les fois, mais t'as de la famille en Aveyron, mais tu vas aller à Millau, tu vas aller régler le problème. Donc ce qui fait que je suis descendu entre 92 et 2005, je suis descendu au comité qui était géré par l'ancienne présidente, 6 ou 7 fois. À peu près. Alors, les problèmes étaient multiples parce que c'était un peu une gestion vieille école.
C'est-à-dire que
C'était une gestion vieille école. C'était un peu les comités de bénévoles ou organisations pas trop. Le respect des lois pas trop. Le respect de la comptabilité pas trop. En fait, c'était un peu ça.
Ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Il n'y a pas de problème.
On avait des remontées, des gens de Millau nous écrivaient des lettres, on avait des informations des gens de Millau.
C'est quand même fou que ça soit su en France quand même.
Bien sûr que ça se savait, mais le fond du problème, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on n'a pas pu réagir avant 2005. Moi, je descendais, je voyais la présidente, je lui disais non, faut pas faire ça, parce qu'il y avait il se passait des choses.
Mais comme quoi, par exemple?
Des choses anormales, c'est-à-dire que par exemple, il y avait de l'argent liquide qui circulait. Et ça, on ne veut pas voir circuler d'argent liquide dans les comités. Bon, c'est bien clair, il y a une caisse enregistreuse, on enregistre les ventes, le résultat de la caisse enregistreuse passe à la banque, donc il n'est pas question d'avoir de l'argent liquide qui se promène. Ça évite beaucoup de problèmes. Donc, il y avait de l'argent liquide qui circulait, il y avait des gars qui étaient employés à la petite semaine, comme ça, à qui on donnait de l'argent à la fin de la journée. Mais c'était du grand n'importe quoi. Il y avait des problèmes comme ça, il y avait le gros problème de fond, des détournements de fonds. Tout le monde à Millau était au courant, hein. Tout le monde le savait à Millau. Moi, les gens de Millau m'en ont parlé, des dizaines de personnes me l'ont dit. Bon.
Des gens d'Emmaüs ou des gens...
Mais la ville, dans la ville de Millau, plein de gens savaient ce qui se passait ici. Plein de gens savaient que, c'était pas très clair au niveau de l'utilisation des fonds, quoi. Même de l'utilisation des fonds, parce que les fonds étaient utilisés à des fins personnelles, hein, par la présidente. Les fonds étaient utilisés... était distribué un peu à la va comme je te pousse, quoi. Je veux dire, on demandait pas l'avis du conseil d'administration. Faut dire que le conseil d'administration, il n'y en avait pas. C'était clair, où il était très succinct, c'était 2 ou 3 personnes qui étaient très proches. Donc voilà, partant de là, moi, Paris m'informait, descend, va régler ce problème. J'arrivais, on en parlait, j'essayais de soulever les problèmes, d'expliquer un peu les informations qu'on avait, ce qu'il fallait modifier, ce qu'il fallait changer.
Sous quelle étiquette ?
Moi, j'étais administrateur du comité national.
D'accord. Mais alors,
voilà, d'Emmaüs France.
Mais vous dites que... ça a commencé...
Moi, c'était en 92 que j'ai commencé, que je suis rentré au comité national.
Mais que vous avez eu vent de ces...
C'était en 92, à partir de 92.
Et donc, la solution, c'était quoi ? C'était que vous descendiez pour en discuter ou...
Voilà, pour en discuter. Et puis, essayer de faire ce qu'on fait habituellement à Emmaüs, c'est-à-dire de régler le problème gentiment. C'est d'essayer de régler le problème gentiment, sans se fâcher, en essayant de trouver des solutions à l'amiable, en essayant de réexpliquer le règlement intérieur, de réexpliquer les statuts, de façon à respecter tout simplement ce qui a été établi et qui doit être respecté dans une association comme nous, voilà, tout bêtement.
Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas tout simplement eu... un changement de président ?
Alors ça, je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Parce que tout le monde s'est posé la même question. Alors, j'intervenais. Et ça s'est passé pratiquement toutes les fois comme ça. Je remontais sur Paris, et le soir même de mon intervention, y avait un téléphone à l'abbé Pierre. La présidente était très amie avec l'abbé Pierre. L'abbé Pierre nous téléphonait en nous disant, mais écoutez, ça suffit, laissez-la tranquille, je la connais depuis 30 ans. C'était un homme très... très très large, très très avec une vraiment avec un esprit, il faisait confiance à tout le monde, et puis son point de vue, il était simple, lui, c'est que chaque individu n'a affaire qu'à sa conscience, voilà, c'était ça, c'était l'abbé Pierre. Donc ma foi, dans la mesure où en conscience elle avait fait ça, et ben ma foi, elle n'avait de compte à rendre qu'avec sa conscience.
Mais comment je saurais ?
Comment saura-t-il ?
La conscience te le dira. Conscience, qu'est-ce que c'est ?
Ce qu'est la conscience. Je vais te le dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Tu saisis ?
<t'-> Donc partant de là, ben, nous on laissait tomber, c'était le patron. Hein. Donc nous on laissait tomber. Ben, on n'avait pas le choix, quelque part on n'avait pas le choix. Donc ça s'est passé comme ça, jusqu'au décès de l'abbé Pierre, donc ce qui a en 2007, qui a tout changé, quoi.
Et qu'est-ce qui a changé alors?
Ben, ça, tout a changé dans la mesure où moi, je suis arrivé ici définitivement en 2005. Donc j'ai eu ma retraite en 2005 et je suis arrivé comme bénévole ici. Je suis venu travailler, j'ai travaillé plusieurs mois en bénévole, en sachant ce qui se passait. Et en essayant de redresser la barre, je me suis fait virer, purement et simplement.
Ah
voilà.
Oui.
Donc, partant de là, j'ai dit non, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Et ne serait-ce que pour par rapport que pour protéger l'image d'Emmaüs. Il y avait un vrai danger pour l'image d'Emmaüs. Donc moi, ça me faisait vraiment, vraiment peine de voir ce qui se passait là. Donc en 2005, je suis arrivé ici définitivement, je suis venu travailler, je me suis fait virer. Partant de là, j'ai dit, on peut pas laisser les choses comme ça. On peut pas laisser les choses en l'état. Alors, j'ai interrogé Paris. J'aurais dit, moi, écoutez, il y a qu'une solution, on ferme l'association. Je voyais que ça comme solution. Paris m'a dit, tu fais ce que tu veux, si tu estimes qu'il faut fermer, tu fermes. Donc en août 2007, j'ai fait fermer l'association. Ce qui fait que, bon, en plus, les choses étaient encore... C'était un peu plus compliqué parce que à un moment, il a été question de fermer l'association, de donner le bâtiment pour l'euro symbolique au Conseil Général. C'était du grand n'importe quoi, mais vraiment du grand n'importe quoi. Alors que ce bâtiment, il a une vraie valeur. Et pour Emmaüs, ça représente quelque chose dans la mesure où Emmaüs en est propriétaire. Hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est un outil de travail magnifique qu'on a là. Donc c'était vraiment dommage. Et j'ai dit, en aucun cas, on peut laisser faire ça, quoi. C'était vraiment... Donc voilà, j'ai fait fermer le bâtiment. Et puis, ça a été une affaire très compliquée parce que je me suis retrouvé 6 ans au tribunal, donc voilà, avec l'ancienne présidente. La présidente ayant décidé de fermer son association, ayant décidé de l'arrêter pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'étant donné qu'elle avait décidé de ne plus être présidente, elle voulait tout simplement que l'association meure avec elle. Bon, il n'en était pas question, Emmaüs, je ne voulais pas qu'Emmaüs meure avec... Donc, partant de là, elle avait fait une assemblée générale de dissolution. Assemblée générale de dissolution à laquelle j'avais décidé d'assister avec 14 anciens bénévoles de l'association qui, eux, étaient d'accord pour continuer. Et justement, pour assister à cette assemblée générale, donc on s'est présenté le jour de l'assemblée générale, et l'idée que j'avais eue, c'est de faire venir un huissier de justice pour constater ce qui se passerait, parce que je pensais que ça se passerait pas bien. Donc, on a été tout simplement expulsés avec violence.
Des d'ailleurs, locaux qui appartenaient
expulsés, non seulement on n'a même pas pu rentrer dans les locaux, on était devant le portail, on n'a jamais pu franchir le portail. Et l'anecdote, c'est que l'huissier s'est fait expulser aussi. Mais bon, c'était incroyable. Donc partant de là, on avait matière à faire un procès. Donc dans la mesure où, légalement, les personnes étant avec moi, étant membres de l'association, avaient tout à fait le droit d'assister à l'Assemblée Générale. Mais bon, n'avaient été convoquées que les personnes qui étaient d'accord pour fermer l'association. Et... Donc partant de là, on s'est retrouvés avec un procès qui a duré 6 ans.
Et donc là, pendant la durée de ce procès...
L'association était fermée. Et bon, on a eu de la chance, on a gagné le procès, on a gagné l'appel, donc voilà. Donc ce qui fait que on s'est retrouvé en 2013 avec une assemblée générale qui avait été organisée par le tribunal. C'est pas grave. Avec une assemblée générale organisée par le tribunal qui a demandé... D'ailleurs, c'est vrai, en toute équité, je pense que l'idée était bonne, c'est que à cette assemblée générale assistent les personnes qui voulaient faire repartir l'association, et les personnes qui voulaient que l'association s'arrête. Et en fait, à la suite d'un vote, on aurait su ce qui allait se passer. Et puis bon, là par contre, j'ai eu une aide absolument fabuleuse des gens de Millau. J'ai trouvé 60 personnes pour venir m'aider à faire redémarrer l'association. Ça a été vraiment quelque chose de très 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 sympa, vraiment. Alors, on est parti sur cette base-là, et puis un autre événement absolument imprévu s'est passé. La présidente est morte entre-temps. Juste avant l'Assemblée Générale de novembre 2013, cette pauvre dame est tombée dans les escaliers de sa cave. Voilà, bref. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à l'Assemblée Générale de recréation de l'association avec 60 personnes qui étaient toutes d'accord pour que l'association reparte. Donc voilà comment on est reparti en novembre 2013.
Donc, question de transparence, là pour le coup financière, est-ce que les gens qui veulent venir, ils ont accès un petit peu à ça ?
Il y a aucun problème, nous, au niveau de l'information, il n'y a aucun souci. Je veux dire, on peut informer les gens sur la façon dont l'argent est gagné, sur la façon dont il est distribué, parce qu'il est bien entendu qu'on n'est pas là pour accumuler de l'argent. Tout l'argent qu'on gagne sert à aider, hein, c'est bien évident. Hein. Donc, pour ce qui est de l'argent gagné, c'est clair et net. Maintenant, pour ce qui est de la façon dont on le dépense, il y a déjà un poste important pour nous, c'est les salariés. On a quand même 12 salariés maintenant. Donc, 12 salariés qui sont des emplois aidés, c'est 8 CAE, parce que, bon, on a besoin quand même de l'aide du gouvernement. Étant une association, on n'a pas les moyens d'une entreprise, donc on est bien obligé de faire avec l'argent qu'on a. Et malgré tout, on essaye d'aider le plus de gens possible. C'est-à-dire que déjà, dans les salariés qu'on a, ce sont généralement des gens en difficulté d'emploi, ce sont des gens RSA, on essaye de prendre des gens qui ont de la difficulté à trouver du travail. Donc ça, c'est un gros poste du budget, hein, de ce qu'on gagne, c'est un gros poste, donc celui-là. Et malgré tout, malgré ça, on a une obligation aussi, tout ce qui est les frais fixes, les taxes, l'électricité, l'eau, les camions, l'entretien du bâtiment, les mises aux normes, on a mis beaucoup d'argent dans les mises aux normes, toutes ces choses-là qu'on arrive à assumer, et encore en plus, on arrive en plus à aider, à faire des aides déjà au niveau local. On essaye surtout au niveau local d'en faire un maximum parce que c'est les donateurs, c'est les locaux, c'est dans le coin, hein, que les gens nous donnent. Donc il est normal qu'on essaye de distribuer le plus d'argent possible localement.
Est-ce hein. que vous avez des exemples ?
On aide toutes les personnes qui nous sont envoyées par les travailleurs sociaux, comme les assistantes sociales. Donc fourniture de meubles, paiement d'électricité, de gaz, de loyer, des gens qui sont à la limite de l'expulsion pour éviter ce genre de problème. Par exemple, on a envoyé de l'argent à Saint-Afrique quand il y a eu les inondations. On essaye de faire en sorte que chaque fois qu'on a les personnes en difficulté qui passent ici, parce qu'on a aussi des personnes en difficulté qui passent ici, mais on préfère quand même travailler avec les travailleurs sociaux. Et encore en plus, alors on a une partie de l'association qui s'appelle SOS Famille Emmaüs qui travaille sur le surendettement des familles. Les familles qui nous sont envoyées, on peut les aider financièrement en payant leurs dettes. Et c'est une sorte de microcrédit. Et ils nous remboursent sur du très long terme, avec des très petites mensualités, à 0% bien sûr. Voilà. On peut même payer des factures, comme je vous dis, payer des dettes. Bon, jusqu'à un certain niveau, on est bien d'accord, on n'a pas un budget limité. Hein. Je suis encore étonné de voir des gens qui arrivent en nous disant « mais on ne savait pas qu'Emmaüs était ouvert ». Donc c'est pour ça que c'est intéressant.
C'est ouvert.
C'est ouvert. C'est ouvert. Regardez, c'est ouvert et les gens sont bienvenus.
Emmaüs Millau vous ouvre ses portes aux 14 rues de la Condamine. Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Plus un bric-à-brac, tous les samedis, de 9h à midi. et de 14h à 17h.
Bonjour monsieur. Oui, alors.
Il est super, la couleur.
Oui, vous avez essayé.
Oui.
Bon, c'est parfait.
Ah oui, j'essaye, ça m'apprend.
Oui, il faut essayer, parce que les pantalons.
Il vaut mieux quand on essaye, c'est parfait. Il vaut mieux.
Le rêve s'est remis en route à Emmaüs, Mio. Nous sommes en 2013 et on reprend les locaux laissés à l'abandon depuis 6 ans. Emmaüs à Mio, c'est 12 salariés et environ 40 bénévoles.
Emmaüs,
un espace ouvert à tous, aux donneurs, aux acheteurs et à ceux qui ont l'envie de papoter. Emmaüs Mio, c'est aussi 2000 arrivages en 2015 grâce aux dons de tous les Miavois. Ici, les bénévoles ne sont pas seulement présents pour vous accueillir. Toute la semaine, ils donnent de leur temps et de leurs compétences. Un ébéniste ou encore un informaticien, de l'accueil ou du soutien. Ces femmes et ces hommes travaillent pour offrir aux Miavois de la qualité à des prix battant toute concurrence. Au prix de la solidarité. À l'étage des meubles, c'est Jean-Michel, salarié, qui se charge de rendre comme neuf le mobilier mis en vente.
Je m'appelle Jean-Michel, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je travaille à Emmaüs. Ma spécialité est la marqueterie, que je ne pratique plus puisque quasiment invendable. Par contre ici, j'ai l'occasion, de, comme vous pouvez le voir, d'avoir des très très beaux meubles. Je passe mon temps à réparer les anciens meubles.
Dans la boîte à outils de papa, il y a un marteau qui fait comme ça.
En fait, quand ça arrive, je vois si... Est-ce qu'on les garde ? C'est déjà le premier, est-ce que ça vaut le coup de mettre la main dessus? Du moment où je garde, en général c'est les belles pièces. Et ce que je ne garde pas, je ne le jette pas juste pour le jeter, je les démonte. Je récupère les bois anciens, je récupère les poignées, les gonds, tout ce qui est ferrure, tout ce qui est petits accessoires, qui va me permettre de restaurer les suivants. Parce qu'en fait ce sont des matières qu'on ne trouve plus, ou à des prix exorbitants. Avançons, je vais vous donner un exemple. Ça m'a pris... Lamé m'a pris en temps de travail, 3 heures. Il n'y avait plus le petit losange entrée de serrure, il n'y avait plus le bouton. Le fond à l'intérieur est entièrement neuf en peuplier comme on les faisait à l'époque. Les pieds à l'arrière, on voit que c'est du noyé, parce qu'il y a des noyés, donc on a respecté le meuble. Mais en fait, ce sont des morceaux de montant de l'île Louis-Philippe. Parce que les l'île Louis-Philippe, j'en ai plein qui ont des tailles bizarres. On faisait fabriquer ces matelas. Donc j'ai des tailles en 80, 110. Impossible maintenant. J'ai du mal à acheter un morceau de noyer. Quand on connaît le prix de la matière première, je récupère les panneaux, tout ce qui est assez massif, et je garde dans mon atelier, j'ai mon stock, et au fur et à mesure, j'ai besoin d'un morceau de bois, je taille dedans.
Il n'y a jamais rien de jeté à une...
Très peu. On essaye d'optimiser tout à son maximum. Il arrive que j'ai des meubles qui arrivent, qui sont en mauvais état, où il y a des marbres. Je garde les marbres. Et il m'arrive de redécouper des marbres pour refaire des marbres. Et en plus, c'est des matières nobles. On peut pas jeter ce genre de choses. J'aurais moins de mal à acheter une armoire qui est en aggloméré. Et de toute façon, je mets quasiment jamais la main dessus. Le temps de réparation est plus cher que le prix où on va la vendre. En fait, il y a une réalité qui est un prix de revient. On a des prix de vente qui sont très bas. Je suis salarié, donc avec un salaire et des charges, si je passe trop de temps, vu notre prix bas, c'est même pas rentable. Donc il faut toujours... Voilà. Il arrive, ce matin, il est parti une petite boîte à couture années 50, qui est toute simple, qui a rien d'exceptionnel. Ça m'a pris 20 minutes. mais elle était rigolote dans la forme, dans... C'est aussi quelque part essayer de conserver le patrimoine. Et on a la chance, je pense qu'on a vraiment la chance d'être dans un milieu rural où les gens ont conservé les meubles. Ces petits objets qui, dans les grandes villes, on aurait jeté bien de Paris. Mon métier premier n'est pas l'ébénisterie, c'est le bureau d'études mécaniques. Quand j'ai changé de voie, il a fallu trouver une école qui m'aille, ce qui n'était pas facile. Les frais de scolarité étaient exorbitants. À l'époque, en France, c'était plus de 100 000 francs pour 2 années d'études. J'ai payé la plupart de mes études en ramassant des meubles dans la rue. Parce qu'à Paris, le système n'est pas le même. Il y a ce qu'on appelle les monstres. Une fois par mois, les gens, ils mettent tout sur le trottoir. Et c'est les éboueurs qui passent la nuit tout ramasser. Je payais mes études en ramassant des meubles, des carcasses de fauteuils anciens. Parce que j'avais des amis tapissiers. Voilà, on voit ce qui est récupérable. Je pense que c'est aussi le... Si j'en suis là, aujourd'hui, à faire ce que je fais là, c'est aussi le parcours d'une vie. J'ai toujours été bricoleur, récup. Je viens d'un milieu rural où on ne jette pas.
Des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers. Des...
Tout est possible.
Donc ça, un million, on le sent beaucoup plus.
Évidemment. Ouais. Je discute très souvent avec des gens à Millau qui ont des combinés à bois. C'est une grosse machine qui permet de faire, de couper, de désépaissir, de faire. Ça, dans les grandes villes, vous voyez pas. Quasiment monsieur tout le monde a l'outillage à bois et travaille. Il y a encore cette valeur où on fait avec ses mains quelque chose.
Campagne toute l'année, avec des grillons, des sillons, des buissons, des poissons, des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fourmis, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des lumières, des babouches, des cartouches.
L'esprit récup, alors, je fais des meubles. Mais quand ils ont un autre souci, ils me l'amènent quand même à l'atelier. Tout est possible. Je peux faire de l'électricité, de la plomberie, de ce que vous voulez. Tout est possible.
Et donc, vous avez un atelier quand même.
Ouais. Que j'ai repris il n'y a pas longtemps, que je commence à éclaircir, à organiser. Parce que c'est... Et on y arrive. Et on a des ateliers quasiment sur tous les postes.
Ouais,
moi, j'ai un atelier bois, on a un atelier électrotechnique. Il y a la réserve livre où il y a les gens qui font que des livres. Il y a les réserves linge où les dames ne font que du tri de linge. Tout est bien structuré pour essayer d'en jeter le minimum. Que tout passe par des mains de gens qui connaissent. Et encore, malgré le nombre de personnes qu'on est là et la masse de connaissances, il y a souvent des objets parfois qui
restent un peu... Ah,
qu'est-ce que c'est ?
Ah ouais.
Ah oui, mais on a tellement produit qu'il y a des objets qui sont désuets, on ne sait plus.
Okay.
Dernière fois, moi, j'étais bloqué, on m'avait amené des petits... comment vous dire ? Ça fait un cône en aluminium. Voilà, ça fait un cône en aluminium. À quoi ça peut bien servir ? Je sais pas. Et ben, c'est une dame qui passait par là qui me l'a dit.
C'est quoi ?
C'était pour faire les jambonneaux. Bah ouais. Et quand on y pense à un jambonneau, ben c'est tous les bouts de cochon qu'on a remis dedans, qu'on a fait cuire à l'eau un certain temps. Et quand on le démoule, c'est la forme de jambonneau. Oh non, j'en vois souvent des trucs improbables. Je suis aussi une fois par mois... à la déchetterie, puisqu'on a une convention avec la communauté de communes où on peut collecter. J'ai eu repêché dans la benne métal un tandilet de la marque Tandil. Je vous dis bien un vélo moteur, pas une moto. Qui a pris recherche sur internet, effectivement, vélo moteur, Tandil, marque nîmoise, petite marque locale, 1920. Mais à voir, elle avait de la classe, quoi. Effectivement, le gars, il a un moment à tout poncer, à nettoyer, à refaire le moteur. Un Paris Rhône du début du siècle. Ah, il se trouve que je suis aussi collectionneur de voitures anciennes, donc les motos, les voitures. C'est ce que je vous dis, c'est un parcours. J'aime bien l'ancien, et c'est ce qui me permet de... J'ai collecté une fois, c'était curieux, un siège de tracteur en métal. Comme on les faisait à l'époque, perforé. Mais monté sur une structure où le monsieur avait remonté une grosse meule en grès, avec des pédales, en fait, pour... Il était assis, et il devait affûter sa faux ou ses outils, c'était... On l'a vendu.
Ah ouais ?
Bien sûr. Sur le coup, j'étais pas sûr. Je me suis dit, moi, je trouve l'objet esthétique. ce qu'a fait le monsieur, c'est rigolo. Est-ce qu'on va vendre ça? Et on l'a vendu. Le monsieur qui nous l'a acheté m'a dit qu'il allait le mettre dans son jardin. Parce qu'il trouvait ça beau, tout simplement. Pour moi, la plus belle chose que j'ai récupérée à la déchetterie, elle était sur le dessus. La benne était pleine, le dessin m'a attiré dans sa simplicité. Normalement, j'ai pas le droit. Je suis quand même monté sur la benne et j'ai récupéré cette assiette. Mais c'est que cette assiette retournée, elle était signée Picasso. Alors effectivement, ça n'a pas une valeur de millions d'euros, parce qu'à l'époque, il y a eu des séries. Mais c'est une assiette qui vaut dans les 50 ou 80 euros, dans la fourchette. Mais pour nous, une assiette à 50 euros, c'est fabuleux. Juste parce que le dessin m'a attiré. Il y avait quelque chose de... Ouais, c'est assez de parcours. Je m'intéresse à la peinture, je m'intéresse à la sculpture. C'est ce qui fait qu'après, quand je vois des... Le 70, je laisserai pas passer une pièce 70, ça m'échappera pas. Pourtant, c'est pas mon credo, le 70. Mais quand je vois une pièce 70, je la loupe pas. Et que je continue à... Régulièrement, je passe aux livres. Et dès que je trouve des livres sur des meubles, des époques que je connais pas, je travaille. En ce moment, je bosse sur les horloges. Parce que l'horloge n'est pas du tout mon domaine. Qu'on en a... Et qu'il faut savoir de quoi on parle. Et quand je suis à la déchetterie, à savoir, c'est un potentiel, ça n'a pas de potentiel. L'informatique, je suis une truffe, c'est clair. Moi, je vis dans l'ancien monde. Les gars de l'informatique m'ont coaché pour savoir ce que je devais leur récupérer. Désormais, je sais changer un disque dur dans un ordinateur.
Ouais.
On partage beaucoup, on essaye de les uns les autres de se donner les pour ne rien laisser passer. Et jeter un minimum.
Bah, c'est génial.
Vous avez chanté, non?
Bon.
C'est impossible, ça. Me faire chanter.
Ah bon?
Non. Petit à l'école, j'étais un des plus grands, mais on me mettait derrière, j'avais le droit d'ouvrir la bouche, mais de pas sortir un son.
C'est si faux que ça?
Ah ouais, c'est terrible. Je vous dis que je jette rien. Les meubles peuvent arriver sans clé.
Mais il y en a un bon clé là.
Il y a de tout. Ça, je sais que c'est un meuble moderne. Ça, c'est une clé 1930. Celle-là aussi, elle va être 1930 par son look, par. C'est une habitude. C'est une habitude. Après, on sait.
Celle-là
1930.
Et donc, faut les tester à chaque fois hein, pour retrouver avec le meuble ou...
En général, il me suffit de regarder un peu la serrure et assez rapidement, on trouve la pièce de rechange. Ouais.
Il y en a combien là?
Beaucoup. Mais non, mais tout est comme ça. Quand je vais jeter une table. Je jette pas les sabots des pieds.
Ouais, vous avez une boîte avec plein de trucs.
J'ai des sabots, je garde les roulettes. Là, ça c'est les charnières, ce qu'on appelle les pivots des anciennes armoires.
Et vous pouvez vous en servir après?
Il m'arrive très souvent d'avoir des vieilles armoires qui arrivent où les pivots sont cassés ou il n'y en a pas. Et j'en ai en stock, je trouve toujours à adapter même si j'ai pas tout à fait le bon. Ça c'est les vis anciennes qu'on appelle à tête romaine. Qui c'est le montage des vieux meubles.
D'accord.
J'en ai. Je garde les entrées de serrure. Je garde tout.
Beau.
Là on est sur des motifs Louis XV, mais j'ai du années 30, j'ai de tout. Mais tout est tout ce que vous voyez là, tous mes produits, les trois quarts viennent de la déchetterie.
Donc c'est quoi
J'ai tous les produits qu'il me faut, des alcools à brûler, des alcools ménagers, des brous de noix, les acétones, tous les produits chimiques que j'utilise. Les teintes, les cires, une grosse partie vient de la déchetterie.
Donc les gens jettent ça?
Oui, bien sûr. Ah, oui. Bon, normalement, j'ai pas accès à ce genre de récup, mais j'ai bien sympathisé avec les gars. Ils savent que moi, c'est aussi de la matière première que je n'ai pas achetée pour travailler. Donc ils me laissent récupérer. Les boîtes viennent de mon marchand de tabac. Ne pas jeter, ça sert à quelque chose. Nous, ça nous permet d'être organisés, de ranger. C'est fabuleux.
Change d'étage pour se donner rendez-vous au rayon livre avec Jean-Claude.
Alors, je suis né en 54 et c'était la date de l'appel de l'abbé Pierre.
Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
Donc moi je trouve son idée formidable et puis tout, il y a tout ce côté soutien des personnes en difficulté, redonner une autre vie aux objets. C'est un ensemble, c'est vraiment le principe de la solidarité, de la non-indifférence par rapport à ce qui est au malheur ou aux difficultés.
C'est venu par le message de...
L'abbé Pierre, oui.
Et donc vous faites quoi, Emmaüs ?
Donc au début j'ai fait un petit peu tout et puis il y a un jeune homme qui s'occupait des livres et puis il n'est pas resté et comme je m'intéresse aux livres, je trie les livres, on les range, on essaie de voir les livres qui peuvent avoir de la valeur de façon à faire quand... Notre but c'est aussi de trouver des ressources pour aider les gens. Le côté on met à disposition des gens des livres à des prix intéressants, par exemple pour les romans, des romans de poche à vraiment un prix dérisoire, ça permet aux gens de s'intéresser et d'aller voir.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse.
Au début, ça n'a pas été simple. À la fois, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qui va intéresser les gens ici ? Est-ce qu'on les garde longtemps, pas longtemps ? Et puis, quel prix on met ? C'est pas toujours simple non plus. Donc, on va chercher sur Internet. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, j'ai vu laisser passer un livre qui était épuisé. Je me suis dit, quand même, c'est dommage. Bon, parce qu'il n'y a pas de raison que des gens qui peuvent payer. Et puis, donc, du coup, il y a l'association. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir sur Internet et de faire une sorte de barème divisé par 3, quelque chose comme ça, pour avoir un prix Emmaüs.
J'aime lire les rapports de police, les tortures, les supplices. J'aime la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire.
Il y a les habitués. Il y a aussi des gens qui viennent à Emmaüs pour d'autres choses et qui viennent jeter un œil à ce qui se fait. C'est un peu tout ça.
Les
habitués qui passent et qui viennent chercher toutes les nouveautés, quoi. Donc ils viennent tous les samedis, que ce soit pour les disques ou les livres, et qui viennent chercher les nouveautés. Et, bien sûr, à la fois faire une bonne affaire. Et puis il y a des gens qui viennent, qui repartent avec un livre sur l'apiculture qui vaut 60 euros normalement, et que là, ils pourront avoir 20 euros sans les frais de port, etc.
Et vous avez des manuels pour les écoles, des choses comme ça ?
On n'a pas trop gardé parce que ça change beaucoup.
Oui, ça.
Il y en a qu'on envoie à des associations à Haïti ou ailleurs. Mais aussi les vieux ouvrages, les vieux livres de science avec des belles gravures qui sont des fois bien plus pédagogiques que les nouveaux.
Emmaüs, c'est
un lien social.
À un moment donné, il y a des jeunes qui m'ont dit « Ah ben oui, ma copine a trouvé ça dans mon rayon. » Ou alors, elle me demande « Vous avez ça ?»« Ben non, je pense pas. »« Ah ben si, ma copine, elle l'a trouvé. » Finalement, elle l'a trouvé pas vous trouvez en librairie, elle l'a trouvé chez vous. C'est amusant. Après, des fois, il y a même des gens qui demandent, qui nous commandent presque le livre. Alors, on dit « Non, on n'est pas en librairie. » Ça dépend de ce que les gens nous donnent aussi.
C'est vrai qu'on peut oublier, parce que vous avez quand même...
Ouais, il y a du choix.
Il n'y a pas d'âge pour être bénévole à Emmaüs, au rayon livre et ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Camille et je suis bénévole chez Emmaüs depuis à peu près un an avec ma petite sœur Manon. On est venu ici car au début, on était client, puis on a voulu faire plus. Plutôt jouer à l'ordinateur, on vient aider ici le samedi et parfois une semaine pendant les vacances. Donc c'était surtout pour aider les gens.
Vous avez quel âge ?
J'ai 16 ans, elle en a 13.
Ok, et donc vous venez tous les samedis ?
Que pendant les vacances scolaires. Après, on a trop de devoirs, mais on essaie de venir le plus possible. On gravite un peu partout, là où on a besoin de nous, mais on est souvent sur l'étage livres, bibelots. Ça dépend. Avant, on était au rayon jouet, mais bon, ils l'ont rétréci, car il n'était pas assez rentable.
Et qu'est-ce que ça vous apporte?
Juste d'aider les gens, de voir les gens contents d'avoir trouvé quelque chose, et surtout pour les... D'aider les gens, surtout, je pense que c'est ça qui nous a motivés à la base.
Et comment ça se passe concrètement quand vous venez le samedi? Qu'est-ce que vous faites?
On va, on discute, on rencontre les gens, on échange des idées, on apprend aussi beaucoup de choses. C'est inimaginable ce qu'on peut apprendre sur n'importe quoi. C'est le contact humain aussi qui nous plaît beaucoup. Ouais. C'est très impressionnant tout ce qu'on peut apprendre.
Est-ce que tu as une anecdote particulière qui te vient en tête? Quelque chose qui t'a marqué depuis que tu fais tes bénévoles ici?
Voir les gens dans la misère la plus noire et à côté, voir des gens assez aisés qui râlent pour 50 centimes. Alors que des gens qui ont vraiment rien, par exemple un monsieur, une paire de chaussures, il manquait 1 euro, il est reparti chez lui parce qu'il voulait sa paire de chaussures, il n'a pas négocié le prix. Une autre dame, un colis qui valait 50 centimes, elle l'a négocié à qu'on lui baisse de moitié le prix alors qu'elle avait les moyens de se les payer. Ça m'a marqué, ça. Chaque fois que je viens ici, j'y pense.
Il y a le rayon vêtements aussi, avec Nicole, entre autres.
Je suis soi-disant responsable de l'étage. C'est un grand mot, mais bon, c'est comme ça. Notre travail consiste, parce qu'on est plusieurs bénévoles sur l'étage, on est 6, et notre travail consiste à recevoir le linge que les gens nous amènent, à le trier et puis à le disposer pour la vente dans les divers rayonnages prévus pour chaque style de linge.
Oui, parce que là, si on regarde tout l'étage, tout est rangé.
Oui, on essaie de ranger le maximum. Cette semaine, on a encore amélioré. On a donc trié les pantalons de femmes et on les a classés par taille, de façon que ce soit plus facile pour les gens. Et puis, on a mis aussi les pulls sur cintre. Et je vois aujourd'hui qu'ils apprécient beaucoup.
C'est un boulot monstre, parce que l'étage, il est grand.
Oui, c'est un boulot monstre, oui. Et il y a une salariée quand même qui est là, donc, toute la semaine et qui fait aussi beaucoup de travail. Et nous, en tant que bénévoles, on vient autant que possible. Moi, personnellement, j'essaie de venir presque tous les jours. Et puis d'autres bénévoles qui viennent 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, selon leurs possibilités. Et il y en a une bénévole qui vient le samedi pour nous aider à la vente, parce qu'elle travaille, elle.
Et vous, avant d'être à Emmaüs, vous étiez aussi dans les vêtements?
Pas du tout. J'étais infirmière.
Comment ça s'est passé, ce changement?
Depuis que je suis à la retraite, je m'investis un peu plus dans le bénévolat. Et quand Emmaüs a réouvert, j'étais heureuse de pouvoir venir voir si ça me plaisait d'abord. Et puis en fait, ça m'a vraiment plu et je me suis engagée. C'était une façon aussi de pouvoir se donner pour les autres.
C'est un reportage sur les coulisses d'Emmaüs Mio pour Radio Larzac. Pour faire un don ou aller à la rencontre de l'association, rendez-vous au 14 rue de la Condamine